Mes très chers amis, pour des raisons que vous comprendrez, je vais vous encore revenir sur la science moderne. Mais avant, je vais faire un petit tour dans l'Ancien Testament. Ainsi, dans la Bible, au livre de la Genèse, il est écrit au chapitre 1er, versets 26 à 29, « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il fit le mâle et la femelle. Et Dieu les bénit et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence, ce sera pour votre nourriture. » Cela, c'est très clair. Pourtant, la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, raconte de nouveau la création de l'homme en ajoutant quelques détails très importants. Dans le chapitre 2, versets 7 à 9, il est écrit « Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Yahvé Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Puis toujours dans le chapitre 2, versets 15 et 17, on peut lire « Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Yahvé Dieu donna à l'homme cet ordre « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Si nous comprenons bien, il y a deux arbres bien précisés dans la Bible, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui nous trouble parfois, c'est que certains prédicateurs parlent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est normal, mais parlent aussi, en plus, de l'arbre de la connaissance, tout court, remplaçant ainsi l'arbre de la vie. De très nombreuses fois, à propos de cet arbre de la connaissance, je me suis posé la question, de quelle connaissance s'agit-il ? De la possibilité de comprendre certaines choses, donc de la science, ce qui n'est pas mauvais. Ou au contraire, s'il s'agit du résumé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la possibilité de connaître le bien et le mal, donc de pouvoir choisir le mal librement, c'est-à-dire de pécher, ce qui conduit à la mort. Mais alors, l'arbre de la vie, qu'est-il devenu? Et à quoi sert-il? Nos linguistes et les traducteurs devraient souvent être plus précis, donc plus clairs. Mais voici que, soudain, ces problèmes de la traduction de la Bible sont dans mon esprit comme associés à la science moderne. Jusqu'à présent, ma curiosité appréciait beaucoup la science moderne. Et voici qu'avec le transhumanisme, je commence à me méfier de cette science moderne. Et très récemment, j'ai découvert que la physique quantique, la physique des microparticules, est, elle aussi, très inquiétante, surtout si l'on s'en tient aux découvertes les plus récentes. Si l'on réfléchit un peu, on perd complètement pied et l'on ne comprend plus de tout l'attitude des savants qui refusent Dieu créateur, incroyablement présent dans les découvertes scientifiques modernes. Je vais m'expliquer. Nous avons tous entendu parler du siècle des Lumières, ce mouvement intellectuel qui, de 1715 à 1789, voulait remettre en cause les structures politiques et les systèmes de valeurs traditionnelles, dont la religion, la monarchie absolue, l'éducation, les sciences, etc. De nombreux philosophes y adhérèrent, comme Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, D'Alembert et d'autres. Nous savons aussi que ces Lumières prétendaient que la science expliquerait tout et montrerait l'inexistence de Dieu. Aujourd'hui, la science a considérablement augmenté le confort. Le travail a rendu plus facile. Et les découvertes récentes nous découvrent un monde en permanente évolution sur le plan technique. À la limite, cela n'est pas mal, car cela nous permet de découvrir ce qu'est la matière dans sa constitution, donc de nous montrer l'intelligence qui repose dans la nature. Mais lorsque certains savants veulent créer de nouvelles choses, y compris des êtres vivants, dont certains seront de nouveaux hommes, alors là, on ne peut plus être d'accord. Car l'homme se prend pour Dieu et se fait Dieu. Et c'est le plus grand péché qu'il se puisse commettre. Je ne veux pas accuser la physique quantique, car je ne la comprends que très peu. Mais j'avoue qu'elle me fait peur. Que cherchent nos savants? La vérité de la matière, vérité qui conduit à Dieu incontestablement, ou le désir de remplacer Dieu? Mes chers amis, nous devons absolument revenir à l'Évangile de toute urgence et nous remémorer chaque jour les dernières paroles de Jésus juste avant son ascension. Jésus dit « Et maintenant, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ceci c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Alors pourquoi, depuis les années 1970, accuse-t-on de prosélytisme tous ceux qui veulent évangéliser? Dialoguer, comme on le dit souvent dans notre Église, dialoguer avec les musulmans, cela c'est bien. Mais pourquoi ne les évangélise-t-on pas, ou si peu? Les apôtres, après la Pentecôte, ont commencé à évangéliser le monde, et cette évangélisation a duré pendant des siècles. Certes, il y eut parfois des erreurs, mais même la colonisation n'était pas mauvaise, comme on veut nous le faire croire actuellement, car c'est la colonisation qui a apporté à des peuples n'ayant presque rien les routes, les écoles, les hôpitaux et de nombreuses constructions. Puis l'évangélisation suivait, et l'on ne compte pas les congrégations qui se sont tellement dévouées dans les colonies. De plus, il ne faudrait pas non plus oublier les œuvres des colons tellement méprisées. Certes, il y a toujours eu des brebis galeuses qui s'infiltrent dans les œuvres humaines, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont tellement donné d'eux-mêmes au profit des peuples démunis. Pourquoi oublier la charité des religieux et des laïcs qui venaient pour apporter tout ce qu'ils pouvaient donner? Mes chers amis, ne m'en veuillez pas de dire la vérité, car notre monde de mensonges nous donne la nausée et il faut parfois se ressaisir un peu et rétablir la vérité. Je dois ajouter ici qu'un nouvel événement très récent ne peut que nous révolter. Ainsi, un professeur enseignant dans une faculté de Louvain en Belgique vient d'être renvoyé car il a osé dire à ses élèves que l'avortement était un crime. Bien sûr que l'avortement est un crime, car avorter, c'est tuer un être humain sans défense. Où nos contemporains ont-ils la tête ?